églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Tout au long de sa carrière, il s'est notamment beaucoup occupé de mouvements de jeunesse. Sa carrière universitaire s'est déroulée à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, où il a été professeur de théologie pratique et d'éthique. Il a été doyen de cette faculté de 1996 à 2000. En 1996, il est nommé membre du Comité consultatif national d'éthique par le président de la République. Il y effectue 2 mandats. En 2012, le Premier ministre le nomme membre de la Commission nationale constitutive des droits de l'homme. Parallèlement, il a continué son investissement dans les églises et les œuvres. La liste est longue. Vous pouvez vous reporter à Wikipédia. J'en retiens simplement qu'il a présidé la conférence, qu'il a été vice-président de la Fédération protestante de France et a aussi présidé la conférence des églises riveraines du Rhin, un groupe régional de la communion des églises protestantes en Europe. Donc voilà quelques repères retenus dans un riche CV. Donc par rapport à notre université et à notre demande vis-à-vis de lui ce matin. La littérature sur les sujets du croire et de la spiritualité est abondante. Les points de vue prolifèrent. Chacun a sa liste et sa bibliographie. L'ouvrage de Jean-François Collange, « Croire, incroyance, foi et religion au XXIe siècle », présente des caractéristiques qui, selon moi, le distinguent de plusieurs points de vue. D'abord, parce qu'il est marqué par plusieurs empreintes de la biographie de l'auteur. L'empreinte du pasteur, de l'universitaire et aussi du citoyen, de l'homme engagé dans la vie publique. Un pasteur, donc, qui a une expérience du sujet, même s'il ne parle pas vraiment dans ce livre à la première personne. Mais on sent que le fil est là. Un universitaire qui, fort de ce vécu intime, se lance dans l'aventure ambitieuse, d'une exploration pluridisciplinaire des profondeurs du croire, dans l'histoire, le quotidien, dans l'âme humaine et même dans la religion, précise la 4e de couverture. L'ouvrage est documenté. On sent un ouvrage qui arrive quand même à beaucoup d'années. Voilà. Un citoyen, enfin, qui porte un intérêt particulier sur les dimensions collectives et sociétales de notre société. En expliquant votre démarche, vous parlez d'enquête ou encore de navigation. On sent que ce travail fut une belle aventure. Et puis, c'est un texte qui offre des facilités de lecture. Il y a des choses trapues un peu, mais on peut le lire. On peut le lire de A à Z, mais on peut aussi s'y promener. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour dire cela, qu'on peut se promener dans votre ouvrage, car chaque point a sa cohérence. Un texte aussi auquel on peut raccrocher ses autres lectures. Je crois qu'on appelle cela un ouvrage de référence. Enfin, j'ai parlé du pasteur, de l'universitaire, du citoyen. J'ajoute que Jean-François Collange dédie son livre à ses enfants et petits-enfants et que l'on retrouve alors des interrogations sur la transmission qui rejoignent les nôtres. Voilà, je lui passe la parole.
Je vais vous aider. Comme ça.
Il faut peut-être le serrer là.
Non. Est-ce que ça va aller ? On va regarder si ça va. J'arrive pas à le faire tenir.
M'entend-on ?
Il va pas tenir comme il faut. Je ne sais pas. J'arrive pas à le faire tenir. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ?
Ah, il peut prendre celui-là.
Celui-là
qui
marche très bien.
Et qui n'a pas de fil, c'est en plus. Voilà, est-ce que, encore une fois, m'entend-on bien au fond ? Bon, bien, écoutez, bonjour et merci d'accepter de m'écouter. Merci à Bernadette. Peut-on croire encore ?
Vraiment le rapprocher très près.
Peut-on croire ?
Il est.
Celui-là, il va très bien.
Tu ne peux pas le prendre à la main ?
Si, je peux le tenir à la main.
Alors, attends, il est éteint. Il faut que je le rallume.
Bah, il est éteint.
Alors là, il y en a deux. Oui, non, mais je l'ai éteint parce que je pensais qu'il était éteint. Le filet va bien. Allons-y. Excusez-moi.
Peut-on croire encore aujourd'hui les raisons de la sécularisation de nos sociétés sont diverses, complexes, bien connues pour une part, mais se trouvent notamment à la racine des évolutions dont nous sommes le fruit. Les Lumières du XVIIIe siècle, l'empire de la raison mise en branle, entraînant par là même d'immenses progrès des sciences et de la technique, aboutissant aujourd'hui notamment aux perspectives stupéfiantes offertes notamment par l'intelligence artificielle. Face à ce déferlement cognitif, la foi ne se trouve-t-elle pas bousculée et dévaluée, mise en question et rejetée, considérée comme inutile quand ce n'est nuisible, porteuse d'intégrisme et d'intolérance, conduisant à des situations et à des comportements désuets, voire pervers. Et pourtant, dans une autre perspective, ce n'est pas un manque de croyances, les plus diverses et les plus incroyables, dont témoignent nos sociétés, mais bien d'un trop-plein. Pour preuve, la multiplication des sagas comme les Harry Potter ou Seigneur des Anneaux, dans le meilleur des cas, quand ce n'est, de façon bien plus problématique, si ce n'est dramatique, la prolifération des fake news, des complotismes les plus sordides, de la post-vérité, etc. En fait, notre société ne manque pas de croyances. Elle en déborde. Comment alors se retrouver dans cet imbroglio d'abandon de croyances, disons, traditionnelles et d'avalanches de récits invraisemblables? Comment se retrouver parmi ces distorsions, voire ces contradictions? Je voudrais ici me contenter, le livre dont parlait Bernadette est multiple, offre plusieurs fenêtres. Je me contenterai d'en suivre une, et la thèse que je voudrais défendre est la suivante. Croire nous colle à nous humains, à la peau. Non pas seulement de façon spécifiquement religieuse, que j'appellerai tout à l'heure plutôt radicale. Croire est le signe d'une réalité humaine fondamentale. Et je crois qu'il faut que nous commencions par nous convaincre de cela. La foi n'est pas du tout abandonnée. Elle prolifère partout, mais sous des formes qui sont bizarres, si ce n'est contestables, voire franchement désavouables. Croire est le signe d'une réalité humaine fondamentale, existentielle, universelle, ou, pour reprendre les termes du psychosociologue Gérald Bronner, les croyances sont l'oxygène de la vie sociale. Peut-être aussi de la vie individuelle, et c'est peut-être là, je glisse juste une... puisqu'on a essayé de parler entre religion et spiritualité, la spiritualité, c'est la croyance au niveau individuel, ou c'est les croyances, c'est le monde des croyances, c'est le croire au niveau individuel. Les religions, c'est le croire au niveau social. Mais enfin, je ferme cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, le croire forme, le croire, la foi, alors on verra quelle est la différence entre foi, connexion entre foi et croire, la foi forme comme la trame de l'existence humaine à la manière de l'espérance et de l'amour. Et à ce propos, je voudrais juste faire une note, texte bien connu, 1 Corinthiens 13, verset 13, Paul parle de ces trois choses qui demeurent. Si vraiment vous ne m'entendez pas bien, derrière, il faut le signaler, hein. Ça va. Ça ira mieux. Bien. Alors, oui, très bien. Donc, en 1 Corinthiens 13, Paul nous dit ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. C'est bien connu et nous en sommes tous d'accord. Et sans doute, la grande majorité des êtres humains en est d'accord. Ces trois choses demeurent. Mais il ne viendrait à l'idée de personne de dire l'amour, c'est vraiment la spécialité des évêques, des églises, des sacristies. Il ne viendrait à personne l'idée de dire l'espérance, on ne la trouve que dans les bénitiers. Par contre, de façon curieuse et malheureuse, en ce qui concerne la foi, on considère que c'est une affaire ecclésiale, religieuse, restreinte, alors que non. Qui donc pourrait vivre sans croire en quelque chose? Et nous le verrons tout à l'heure, sans croire en quelqu'un, pas forcément en Dieu, pas d'abord en Dieu, mais croire en quelqu'un, avoir confiance en quelqu'un. De fait, le croire, justement, parce qu'il est universel, ne se présente pas comme un bloc, il se construit. Mais vous savez...
Non, mais laisse-le finir. Non, mais... Pince-le.
Je me demande si... sinon, ma voix peut porter. Donc, si la technique est défaillante... On essayera de voir dans quelle mesure la gorge, elle, peut prendre la relève. Alors, le croire, justement parce qu'il est universel, ne se présente pas comme un bloc. Il se construit en fait en plusieurs niveaux. Et justement, le niveau 3, on verra, qui est le niveau, disons, religieux, radical, mais il ne faut pas y arriver. Il ne faut pas commencer par le haut, il faut commencer par le bas. Ces niveaux s'entrecroisent, se chevauchent les uns des autres. Mais avant de développer ces points, ces trois niveaux, les soupçons portant sur le croire étant essentiellement, notamment d'ordre scientifique et technique, je voudrais dire quelques mots sur les rapports entre certaines modalités du croire, du savoir et de la science. Donc c'est mon premier point. Croire, savoir et science. A priori, foi, savoir et science s'opposent. Ce que l'on sait, on n'a pas à le croire. Et ce que l'on croit, c'est justement ce qu'on ne sait pas. Et pourtant, à la racine même de toute recherche scientifique, et ça vaut la peine de retenir ce mot que... Oui, de façon... on parle de recherche scientifique, non pas de vérité scientifique. Enfin, on parle aussi de vérité scientifique, mais la science est essentiellement une recherche, et en ce sens, c'est bien. Mais à la racine de toute recherche scientifique, il y a nécessairement quelque chose qui n'est pas scientifique, qui est l'intérêt. Le philosophe américain William James, au siècle dernier déjà l'avait montré. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de science. Il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de connaissance. On le sait très bien lorsqu'on est enseignant. Lorsque l'on a devant soi des élèves qui ne sont pas intéressés par telle ou telle chose ou telle matière, ça ne débouche sur rien. C'est vrai aussi au niveau sociétal et global. Par exemple, actuellement, il semble qu'il y ait au niveau mondial beaucoup d'intérêt pour les terres rares, pour le lithium. Qui est-ce qui, il y a plus de quelques années, savait ce que c'était que le lithium et si c'était intéressant? On s'y intéresse et donc ça devient objet de science, objet de recherche, tant qu'on ne s'y intéresse pas. Or, l'intérêt lui-même ne peut pas être démontré. C'est une donnée, c'est une étincelle de foi. On croit que ça vaut le coup de s'y mettre. On croit que ça vaut le coup de s'y intéresser, de travailler. On veut savoir, et même on croit qu'il vaut la peine de savoir. Un niveau donc plus individuel encore, à la racine de toute connaissance, il y a l'intuition. Et l'intuition, elle aussi, certains philosophes, là aussi au siècle dernier, mais bon, ont pu l'approcher en parlant en allemand, c'était Husserl et la phénoménologie, ou en France, Merleau-Ponty, ont parlé de l'intuition comme d'une Urglaube, une foi primitive, une foi primaire. Et là encore, il n'y a pas de recherche, de connaissance, de savoir sans ce quelque chose qui échappe justement au savoir, qui est l'intuition. À l'autre bout de la chaîne cognitive, il y a le rêve, l'espoir, éventuellement même l'exploitation que l'on peut faire d'une connaissance. Toujours est-il que le savoir et la recherche resteraient vains s'il n'y avait pas à leur origine et à leur débouché quelque chose qui ne sont justement pas de l'ordre du savoir, de la connaissance et de la science, c'est-à-dire de l'humanité et de l'engagement humain. C'est là qu'on commence à toucher le croire. Il n'y a pas le croire, c'est s'engager. C'est s'engager là où justement il n'y a d'abord rien et où l'humanité, en l'occurrence l'intelligence, investit le donné. Mais d'ores et déjà, nous pouvons tirer de ces quelques réflexions deux conclusions provisoires. La démarche cognitive humaine est tout autre chose qu'un simple fonctionnement mathématico-informatique ou qu'un aménagement de circuits algorithmiques, même si elle en emprunte certaines formes. Elle comporte, sous une forme ou sous une autre, une part de croire ou de foi élémentaire, certes en la matière, mais qui en signifie la qualité proprement humaine. J'en fais le pari, je serai sans doute plus là pour vérifier si je l'ai gagné, si je l'aurais gagné ou si je l'aurais perdu, mais j'en fais le pari. L'intelligence artificielle fera des choses extraordinaires, et peut-être même moins extraordinaires. Elle nous épatera, mais elle n'arrivera jamais à avoir cette humanité, cette intuition, ce rêve, cette création d'imaginaire qui est la caractéristique qui est la nôtre. Cette qualité ou cette capacité très vague, humaine, très vague pour l'instant, relève de l'imagination, de l'imaginaire, de la possibilité d'élever la donnée brute, la pure matérialité, à autre chose qu'elle-même. Oui, ce n'est pas évident quand on se trouve face à des éléments chimiques de pouvoir les transformer et en faire justement soit des médicaments, soit n'importe quelle utilisation chimique. Un mot double à cet égard de création de cette capacité d'imagination, de création d'imaginaire qui est le propre de notre humanité, c'est voir au-delà. Et je tiens beaucoup à ce petit mot, cet adverbe, au-delà. Oui, ben une table, c'est pas simplement quatre pieds du bois, mais ça peut servir à autre chose. On voit dans la matérialité que l'on voit, qu'ensuite on va analyser, qu'on va travailler, on voit au-delà. Et vraiment, ce terme au-delà me paraît caractéristique. Il fait le lien avec ensuite la version religieuse ou radicale du croire. Croit au-delà. On ne s'en tient pas à la matérialité brute, je dirais presque bête, mais on fait comme ça nous a été évoqué tout à l'heure, on fait comme le héron, on prend son envol, on voit au-delà, on ne s'en tient pas bêtement à ça. Ou comme Monique Beaujard l'indiquait, on ne s'en tient pas bêtement à l'instant réduit à la consommation brute. On voit au-delà, on espère au-delà, on croit au-delà. Mais ce n'est pas tout. Reste toujours à mon rapport entre connaissance, science et croire. Cette capacité imaginative, fictionnelle, nous allons encore le voir de façon plus précise dans un moment, se développe aussi dans un registre le plus souvent relationnel, en foi, en fiance, en fidélité ou en confiance. Tout ça, c'est la même racine. Or, ces qualités, loin d'être donc foi, fiance, confiance, fidélité, ces qualités, loin d'être purement morales ou religieuses, se révèlent elles aussi fondamentales dans la constitution du savoir et de la science. La foi-confiance joue en effet un rôle déterminant dans ce domaine, tout particulièrement à travers le rôle qui tiennent l'échange, la transmission et la parole échangée. Il n'y a pas de savant solitaire. Il n'y a surtout pas, peut-être qu'il y a des savants solitaires, mais il n'y a surtout pas de science solitaire. Il y a toujours une science qui est construite à plusieurs, une connaissance qui est construite à plusieurs. Je voudrais donc évoquer là un propos de l'écrivain anglais Bernard Shaw qui disait que, en fait, les gens du Moyen-Âge étaient moins crédules que les gens d'aujourd'hui. Pourquoi ? Il disait ça à propos de la rotondité de la Terre. Les gens du Moyen-Âge regardaient autour d'eux et voyaient que la Terre était plus ou moins... Ici, à Évian, ce n'est pas tout à fait le cas, mais la Terre était plate. Bien. Nous savons, disons, répétons que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu si c'était vrai ou pas ? Nous le savons, disons, croyons, avec justesse évidemment, parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on nous l'a enseigné, parce qu'on nous l'a transmis. Certes, on ne nous a pas transmis un catéchisme. On a de bonnes raisons de penser que la Terre est effectivement ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, et que c'est de toute façon qu'un point infinitésimal de l'univers. Mais il faut quand même pointer du doigt que ces vérités-là et toutes les autres vérités, enfin voilà, quasi-totalité des vérités scientifiques, nous n'y croyons que parce qu'on nous l'a dit, parce que les maîtres qui nous ont enseigné, parce que les autorités scientifiques qui proclament certaines choses sont dignes de confiance. On leur fait confiance. De même, puis je vais passer là-dessus un peu plus rapidement, de même, on sait très bien que le signe fondamental de la scientificité d'un propos, quel qu'il soit, c'est de pouvoir être réfutable. Un propos qui n'est pas réfutable, qui n'est pas falsifiable, dans le langage de Karl Popper, c'est un propos qui n'est pas scientifique. Alors, si le croire se trouve ainsi même lové, il est caché au cœur de ce qu'il y a de plus scientifique, de la connaissance de la raison, au cœur de la raison, qu'est-ce donc que croire ? Peut-on, et j'en arrive là à mon deuxième point, quels sont les enjeux du croire ? Et c'est là que je vais développer les trois niveaux que j'annonçais. On l'a dit, croire nous colle à la peau. Pourtant, grandes sont les difficultés quand on essaye de préciser de quoi il s'agit. Si l'on prend un dictionnaire, on trouve une infinité d'emplois de l'usage du terme, allant de « je crois qu'il fera beau demain », voilà, tant qu'à faire aujourd'hui, c'est bien, il pleut, demain c'est la sortie, je crois qu'il fera beau demain. Ceux qui ont envie de dire qu'ils croient qu'il fera mauvais demain peuvent tout à fait le... c'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le niveau 1. Je crois que... on va bien manger à midi, je crois que... Enfin, je crois des choses toutes... fondamentales... Enfin, et puis, en même temps, donc on emploie ce verbe « croire » à ce moment-là, on en vient jusqu'à dire « je crois à Dieu ». Donc on voit bien l'énorme champ qui s'ouvre à qui essaye de comprendre ce que c'est que croire. Quand on croit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe quand on dit « je crois qu'il fera beau demain » ? Qu'est-ce qui se passe quand on dit « je crois à Dieu » ou « je crois... » la vie éternelle ou que sais-je, on y reviendra. Laissons pour l'instant l'aspect religieux, radical, c'est le niveau 3, que peut aussi prendre le croire, et essayons de voir ce qu'il en est de son usage commun et quotidien. On distingue alors là, aussi encore deux niveaux, ce sont des couches, hein. Ça paraît peut-être un peu... mais c'est pour ça que c'est compliqué. que le mot croire, ouais, croire, ça vaut rien. Croire, je crois, j'y crois de tout mon cœur, de toute la force de mes armes. Et l'on se retrouve en Palestine, hélas, ou en Israël, ou ailleurs. C'est parce qu'il faut justement distinguer ces niveaux. Alors, on a un premier niveau qui est tout simplement déclaratif et élémentaire, que j'appellerai le niveau 1. Et je reviens à cet exemple. Je crois qu'il va faire beau ou mauvais demain. Que faisons-nous lorsque nous disons cela ? Que faisons-nous quand nous disons cela ? Nous nous projetons vers l'avenir, au-delà de l'évidence et de la certitude. Déjà à ce niveau-là, si je crois qu'il va faire beau demain, je me projette au-delà, vers l'avenir, au-delà, je retrouve mon mot, au-delà de l'évidence et de la certitude. Nous imaginons autre chose que la simple donnée factuelle. On imagine. C'est le premier élément. Deuxième élément, toujours le niveau radépacrète, nous faisons un pari. Nous prenons le risque de nous tromper. Alors là, effectivement, on ne se rend même pas compte. Si je dis « je crois qu'il va faire beau demain », me rend plus compte que je prends un risque, que je prends le risque de me tromper. Je le sais, mais on s'en fiche. Et pourtant, c'est là. Nous nous projetons, donc, faisant ce pari, au-delà de la simple réalité brute, nous l'élevons, cette réalité brute, nous l'élevons à ce qui va se passer demain. Quelles en sont les conséquences ? Dès à présent, le doute est inhérent à toute forme de croire comme à la foi. Voilà. On ne peut pas faire autrement. L'engagement, le courage, surtout lorsqu'au-delà de ce cas simplissime, on se lance dans une entreprise à laquelle on croit, voire que l'on tend vers l'absolu, l'insaisissable, l'immaîtrisable, c'est-à-dire Dieu. On s'y engage. Ces éléments de vision, de projection au-delà d'eux, de pari et d'engagement, sont au fondement de toute culture, comme la magistralement démontré Julia Kristeva, psychanalyste et philosophe, dans un ouvrage d'il y a une dizaine d'années, cet incroyable besoin de croire. C'est ça la culture. Il ne peut pas y avoir de culture autrement s'il n'y a pas justement de l'imaginaire, de la recherche de choses nouvelles, d'autres choses, de plus que tout simplement, bêtement, je dirais, que le ciel m'en excuse, qu'il y a encore autre chose que tout simplement le manger, le boire et le dormir. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la culture. Et cette culture est toujours de l'ordre du pari, de l'engagement. Elle nous élève au-delà de nous-mêmes. Il y a 2-3 ans maintenant, en tout cas à Strasbourg, il y a été jouée une pièce de théâtre à laquelle je n'ai pas assisté, mais dont l'affiche portait ceci: apprivoiser l'incertitude par la faculté d'imaginer. Et me semble-t-il, c'est ça la culture, et c'est ça au niveau 1. Ou déjà au niveau 1,5, la foi, le croire, apprivoiser l'incertitude par la faculté d'imaginer. Et on pourrait déjà faire, enfin, ce sera le rôle de Monique Beaujard, que de faire le lien avec ce qui a, par exemple, été dit hier soir sur la Bible. C'est un réservoir d'imagination, de culture. Oui, on peut dire effectivement, c'est que des consonnes et il n'y a pas de voyelles et puis on ne comprend pas. Et puis, de toute façon, est-ce que c'est vrai ? Je reviendrai sur un texte biblique où je pense quand même qu'il y a un peu plus de poids que ce qu'on a pu nous présenter hier soir. Mais ça ne fait rien. La Bible, c'est d'abord ça. C'est un formidable réservoir d'imagination de ce que nous, humains, sommes appelés à faire pour être humains. Montons dans la couche du millefeuille. Autre nouveau niveau, le deuxième niveau, il est d'ordre existentiel et relationnel. Plus simplement, croire au-delà, s'engager, faire un pari, mais c'est tout simplement croire, c'est pleinement croire en, croire dans une personne ou un groupe de personnes. La force imaginative et la prise de risque, le pari dont est porteur tout mouvement de croyance, rencontre alors et investit les éléments fondamentaux d'une vie humaine comprise comme relationnelle, collective, commune, sociale. Le simple croire que demain il fera beau, devient en croire en. On ne peut pas dire je crois dans le temps de demain ou dans le soleil de demain. On croit que. Mais là maintenant, lorsque ce pari, cet au-delà, cette élévation s'adresse à des humains, entre humains, on ajoute les prépositions « en » et « dans ». Et le croire se transforme alors en foi ou en confiance, en fidélité. Quelques illustrations rapides, qui ont d'ailleurs plus ou moins déjà été évoquées hier. Mais vous n'avez pas de vie familiale, vous n'avez pas de mise au monde, vous n'avez pas d'enfance et le fait d'éduquer, d'élever des enfants en dehors de la confiance. Un enfant, et on n'est pas du tout à l'église, on n'est plus dans la Bible, enfin, on n'est pas dans la Bible, on est simplement, un enfant vient au monde, il ne peut vivre et grandir qu'en faisant confiance en ceux qui le portent et qui lui parlent, qui lui apprennent à avoir confiance, à faire confiance. Un autre élément, je voudrais tout simplement, dans notre monde si paganisé, on va dire comme ça, mais c'est le nôtre, hein, c'est le mien, tout autant, si paganisé, la foi, qu'est-ce que c'est, le croire, qu'est-ce que c'est, on n'en a plus rien à faire. Il ne faut pas aller très loin pour voir des bâtiments sur lesquels il y a écrit, ici, à Évian, mais partout ailleurs, crédit. Crédit financier, crédit industriel. Qu'est-ce que c'est crédit ? C'est tout simplement la financiarisation de la confiance. Et nous ne pouvons plus, alors on peut certainement vivre actuellement sans aller à l'église, sans croire, etc. Je vous mets au défi de pouvoir vivre sans crédit, d'une manière ou d'une autre. Et si on regardait de près est le fonctionnement fondamental de nos sociétés financiarisées, c'est finalement de la confiance. Le banquier ne vous prête d'argent que s'il a confiance dans le fait que vous pouvez lui rendre, sinon ça ne marchera pas. Et réciproquement, vous n'allez emprunter de l'argent que dans une banque dont vous savez qu'elle ne va pas faire faillite dans les 48 heures. Ceux qui d'entre vous ont eu la chance, comme ça m'a été donné une fois, d'aller en Grèce, peuvent être frappés par le fait que, justement, sur certains bâtiments, il y a écrit « Trapeza thespisteos ». Alors, si vous avez fait un peu de grec du Nouveau Testament, vous traduisez mot à mot, ça veut dire « table de la foi ». « Trapeza thespisteos ». C'est des banques. Alors, « trapeza », c'est le mot qu'en français, on utilise, disons, les échanges se faisaient sur des bancs, d'où le mot banque. En Grèce, ça se faisait sur des tables, ma foi, ça ne change pas grand-chose, trapeza. Et thespisteos, ce qui, dans le Nouveau Testament, pisteos signifie foi, enfin, pistis, c'est la foi, là, c'est devenu tout simplement la confiance. C'est le crédit. Et donc, je ne sais pas si toutes les banques en Grèce s'appellent Trapeza Thespisteos, mais en tout cas, un certain nombre, comme chez nous, un certain nombre s'appellent crédit. Le cœur de la vie sociale, même aujourd'hui, plus que jamais, malheureusement, de façon trop exclusive et tentaculaire, c'est la confiance entre les uns et les autres. Et puis, je ne ferai qu'évoquer la vie politique. Comment voulez-vous qu'il y ait une vie politique et sociale sans confiance? Et hélas, à tous les niveaux, tout ce qui va mal, on pourrait réinterviewer nos journalistes d'hier soir, tout ce qui remplit les pages de journaux à longueur de journée de quotidienneté sur la vie politique et sociale, ce sont des histoires de confiance. Alors, je ne prendrai la voix de personne, mais comment pouvez-vous avoir confiance dans ce gouvernement? Comment pouvez-vous avoir confiance dans cette proposition de loi? Comment pouvez-vous avoir confiance, etc., 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 sans confiance? Sans croire en, sans un minimum de confiance, il n'y a pas de vie sociale possible. Et les révolutions, quand est-ce qu'arrive une révolution? C'est lorsqu'effectivement, le poids de confiance n'est plus suffisant, le poids de défiance est tel que la structure qui organisait la société jusqu'alors s'effondre et qu'on en reconstruit une autre. J'en viens maintenant à mon troisième niveau, au courage de croire, à la foi confiance religieuse, que j'appellerais volontiers pour justement radicale. Il s'agit alors de croire envers et contre tout, en dépit de tout. La foi religieuse, c'est là qu'il y a le décalage, qu'il devrait y avoir le décalage, l'écart, fonde, confirme, critique, purifie et renforce les éléments constitutifs de toute vie de confiance, de fidélité et de foi. En se référant notamment à un Dieu insaisissable, oui, insaisissable, un Dieu quand même, mais insaisissable, la foi radicale fonde dans une sorte de fondement sans fondement, abyssal, ce qui fait l'humain dans ce qu'il a de plus humain, c'est-à-dire la foi, la confiance, le pari et le risque qu'il prend. À ce niveau-là, la foi, sans laquelle nul individu, nulle société ne peut vivre sur des modalités complexes, effectivement, que j'ai fait qu'effleurer, trouve sa racine radicale, trouve sa racine. On interviewe des gens dans la rue, où ils ne vous diront pas ça, mais c'est ça. Ils ne peuvent pas continuer, nous ne pouvons pas continuer à vivre sans, d'une manière ou d'une autre, mettre notre foi dans quelque chose de radical, d'absolu, qui nous dépasse. Là aussi, ça a été dit l'une ou l'autre fois hier. Et je voudrais en donner quelques exemples. Par exemple, les guérisons de Jésus. On sait que Jésus, bon, parmi les nombreuses qualités qui étaient les siennes, était guérisseur, qu'il guérissait. Et je pourrais, ça serait un peu long, donc je ne peux pas le faire maintenant, mais c'est dans le bouquin, vous pourrez le trouver. Dans les trois évangiles synoptiques, Jésus guérit, et il guérit comment ? Par la foi. Et chose tout à fait... Alors, un, à ma connaissance, dans l'histoire de l'humanité religieuse, spirituelle, alors évidemment pas médicale, ça ne s'est jamais fait. On guérit par des pratiques magiques, on guérit en utilisant des herbes, on guérit en utilisant la méditation, enfin tout ce qu'on veut, mais en disant « ta foi t'a sauvé », c'est une originalité non brevetée de Jésus. Ça mérite quand même d'être souligné, mais il y a plus. C'est pas ta foi. Regardez, c'est incroyable. C'est incroyable que cela soit dans les évangiles essentiellement synoptiques, et c'est incroyable qu'on ne l'ait pas remarqué ou qu'on ne le remarque si peu souvent. Il dit pas ta foi en Dieu. Il dit pas ta foi en Dieu t'a sauvé. Il dit ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire ce raccrochement à ce qui fait l'humanité, ton humanité la plus profonde. Tu reprends le risque de vivre. Ouais, tu croyais que tu étais paralysé. Ta foi, que tu étais lépreux. Mais non, maintenant, le fait de m'avoir rencontré, c'est d'avoir entendu une parole, une promesse, ça c'est sûr, de m'avoir rencontré. Mais c'est, donc c'est pas ta foi en Dieu, c'est même pas ta foi en moi. Et ça c'est, je dirais, c'est chapeau. C'est autre chose encore. Ta foi t'a sauvé, va, et ne pêche plus. Mais surtout ne reste pas attaché à moi. Ne reste pas mon bon catéchumène, mon bon disciple qui passe sa vie à chanter les louanges de celui qui l'a guéri. Ta foi t'a sauvé, va. Dans un autre passage, c'est dans l'évangile de Marc, et j'aurai l'occasion d'y revenir en conclusion, dans un autre passage, l'évangile de Marc, au chapitre 11, verset 22, Jésus a cette phrase, là aussi ça demanderait à être démontré. Je reviendrai ici si on me le demande pour le démontrer. Jésus a, alors c'est, je cite en grec, hein, c'est pas très long, ekete pistin touteu, mot à mot, ayez la foi de Dieu. Et le plus souvent, et c'est légitime, on peut traduire ayez foi en Dieu. Mais c'est tout aussi légitime de dire ayez la foi de Dieu. Et ce sera un élément que j'évoquerai en conclusion. Je vais le faire tout de suite parce que comme je vois que le temps passe, et là encore, Monique Beaujard, en commençant dimanche soir, nous a dit « En quel temps sommes-nous ? Pouvons-nous croire ? Pouvons-nous croire ? Nous croire nous-mêmes ? Pouvons-nous croire les autres hommes ? Vu tout ce qui nous attend et nous tombe sur la tête ? Eh bien, le jour où l'on ne pourra plus croire dans les hommes, sachons une chose, Dieu, lui, croit en nous. Ekete pistin touteu. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Alors, elle consiste en quoi, la foi de Dieu ? Elle consiste dans le fait d'avoir confiance dans ses créatures. Toute biscornue soit-elle, toute boiteuse soit-elle, toute aveugle soit-elle, toute mauvaise soit-elle, ce que nous sommes, toute théoriquement, on ne peut pas leur faire confiance. Mais moi, leur créateur, je ne les ai pas créés pour rien. Je ne les ai pas créés, donc, que Dieu me pardonne. Dieu ne nous a pas créés pour rien. Il ne nous a pas créés pour que tout ça fiche le camp. Il ne nous a pas créés pour que tout ça soit. Il a créé pour que cela soit sauvé, sanctifié. Dieu croit dans l'humanité. Oui, je passe. Et je voudrais juste terminer par cela. De chair et de sang. On a le temps ? Eh bien, alors c'est parfait. C'est d'autant mieux. J'ai intitulé cette dernière partie « De chair et de sang », donc croire de chair et de sang, la limite, l'homme, la femme et la parole. Et je voudrais m'attacher au chapitre 2 et 3 de la Genèse, dont on sait bien et on s'en fiche. Encore qu'on s'en fiche, que c'est un récit qui n'est pas scientifique en tant que tel, mais qui est mythique. Mais les mythes sont porteurs de vérité existentielle. Il suffit de voir des mythes, les mythes grecs. Donc, et je vais essayer de montrer. Alors, j'arrive tout de suite au point le plus, disons, le plus scoop, on va dire. C'est que, d'après même le texte biblique, je vais le démontrer, la première personne du premier couple humain qui a péché, ce n'est pas Ève, c'est Adam. Mais avant d'en arriver là, ce sera le point d'orgue, ou un des points d'orgue. Tout est dit sur notre vocation d'être humain dans ces phrases très simples. Adam est seul. Donc on est au chapitre 2. Hein. Adam est créé seul. Et étant seul, un, il est malheureux comme une pierre. Deux, il ne sait pas parler. Trois, il n'a pas de limite. Je reviens un petit peu en arrière. Dieu l'a créé et l'a mis dans un jardin au centre duquel il y a des arbres partout. Et au centre, il y en a un. Et Dieu dit, vous pourrez manger de tous les arbres, mais vous devez manger de tous les arbres, sauf un. Alors, les esprits bien formés que nous sommes, qu'est-ce qu'on entend ? On dit, ah là là, interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Franchement, pensez à vos gosses, à vos petits-enfants, ou à vous-même. Dieu dit d'abord, mangez de tous les arbres, mangez, allez, j'en ai fait plein, et ils sont délicieux, ils sont bons. La vie vaut la peine d'être vécue par tous ses côtés. Mais pour que ça marche, il faut que vous respectiez une limite. Ben, nous le savons bien. Un repas peut être excellent. Il est excellent quand on sait manger avec modération. Les vins peuvent être délicieux et sont tout à fait, font partie de la création bonne de Dieu, pour peu qu'on ne s'enivre pas. C'est sans doute un des problèmes de notre société actuelle que de croire, penser à tout simplement d'année en année, un point de croissance en plus, deux points de croissance, youpi, on a enfin... On n'est pas en décroissance, mais on est en croissance. Vous pouvez avoir de la croissance, mais vous pouvez développer beaucoup de choses, la technique, la science, la technique, les biens matériels. Mais sachez qu'il y a une limite. Ce n'est pas illimité. Et Elon Musk n'a pas lu ce texte, ou au contraire, s'il l'a lu, il n'a rien compris. Ce n'est pas en allant chercher sur Mars le bonheur qu'on ne trouve pas sur Terre que ça va marcher. C'est en respectant... Alors la limite, on va dire, ah oui, mais la limite, qu'est-ce que c'est ? Ben justement, si Dieu avait dit... La limite, c'est il faut pas manger de mirabelles, hein, c'est ça. Non, c'est plus subtil. Vous pouvez manger de tous les arbres, profiter de la vie, mais pour pouvoir en profiter, respecter une limite. Oh, mais Seigneur, quelle limite ? Ben, c'est à toi de la trouver. Trop facile de dire, ah, Dieu m'a dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Non, je te dis qu'il faut respecter une limite. Et la limite, c'est à toi de la trouver. Ça dépend beaucoup des individus, des sociétés, des temps historiques, etc. Dieu crée Ève à partir d'une côte d'Adam et pour ça, il endort Adam pour qu'il ne soit pas le voyeur de sa femme. De la création de sa femme. C'est 2500 ans avant nous, quand même, génial. Le contraire de n'importe quel machisme. Adam n'était pas là en disant « Ah, j'ai vu comment elle est née et elle a été créée. » Il ne voit rien. Et comme la création d'Ève vient juste après la mention de la limite, on peut quand même en déduire ceci, c'est quelle est la limite de la limite ? c'est le respect d'autrui. Pour Adam, c'est le fait... Oui. Et c'est tellement évident, je dirais... Pour pouvoir jouir de la vie, il n'y a pas d'autre moyen que de respecter autrui. Et tout particulièrement dans la plupart des circonstances, le conjoint que Dieu, la vie, vous donne. Ève étant créée, Adam a... Alors, le texte biblique dit « je vais créer » et la plupart des traductions traduisent de façon fautive « je vais lui faire une aide semblable à lui ». Le mot « aide » est faux. Enfin, la traduction est fausse. En hébreu, c'est « ézer », c'est-à-dire « secours ». Pas la même chose. « Aide », ça pourrait être la femme de ménage. Ézer, c'est le secours. Et dans la Bible, le mot Ézer est employé souvent, mais pour qualifier Dieu, surtout dans les psaumes. Dieu, mon secours. Bien sûr, pas Dieu, ma boniche. Donc, je vais lui faire un secours. Ézer, knegdo. Et généralement, on traduit quelque chose par « je vais lui faire une aide semblable à lui ». Non. « Que negdo », c'est « contre ». Je vais lui faire un secours en face. En face. Et du coup, ce « en face », c'est une peu, donc la création d'Ève, c'est la possibilité de l'échange, la... C'est une limitation. C'est ça la limite. Jouis de la vie, sauf d'une. L'aide que je vais créer, le secours que je vais te donner, t'apporter, c'est ce qui te limitera et te limitant te donne une identité et te permet de parler. Voyez que Adam, si vous reprenez le texte de Genèse 2, Adam ne sait pas parler. C'est parce que Ève est créée face à lui, en face, contre. Et bien sûr, Adam en face d'Ève, qui ne peut pas faire tout à fait ce qu'il veut, ou qu'il va finir par comprendre, mais il ne va pas le comprendre tout de suite. Il va comprendre assez vite, ou il devrait comprendre assez vite, que la clé du bonheur, de la jouissance, simplement d'une vie belle, c'est respecter la limite qu'Ève constitue, qu'Ève est face à lui. Alors voilà, maintenant j'en arrive à... On dit, effectivement, le péché originel, d'après la Bible, c'est Ève, parce que le serpent lui a parlé, lui a dit, Dieu n'a-t-il pas dit, vous ne devez pas manger, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un. Et Ève, d'ailleurs, le serpent, j'y reviendrai aussi, le serpent est plus astucieux, il lui pose une question, il n'a pas d'affirmation. Il dit, Dieu n'a-t-il pas dit que... Et Ève tombe dans le piège. Elle dit, oui, il nous a dit qu'on pouvait manger tous les arbres du jardin, sauf d'un. Et le serpent lui dit, avant, donc, et on en a déduit, saint Augustin, tous les saints, tous les grands théologiens, enfin tout, je ne sais pas. Et puis je ne voudrais pas... que c'était la faute d'Ève. Elle l'a donnée à Adam. Et pourtant, avant, que s'est-il passé ? Adam se réveille, il voit Ève, effectivement, il voit Ève en face de lui, ah ben ça c'est bien, il peut enfin parler, super, et il dit ces phrases magnifiques, « Celle-ci enfin est eau de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée Isha, en hébreu, parce qu'elle a été tirée de Ish. Isha, c'est tout simplement la même chose que Ish, qui veut dire homme, le mec, et on ajoute le A de la fin comme Anna, enfin bon, même encore chez nous, ça fonctionne un peu comme ça. Et on se dit, ben, il est merveilleux cet Adam. Il est plein d'émerveillement face à Ève. Celle-ci, enfin, est haut de mes os. Quelle poésie! Est haut de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée Isha, car c'est de Ish qu'elle a été tirée. C'est ça le péché originel. Pourquoi? Parce qu'il parle sur elle et non pas avec elle. Si il avait vraiment été, permettez la familiarité, mais si il avait vraiment été un mec à la hauteur, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Enfin, te voilà chérie, comment t'appelles-tu? Or, il lui cloue le bec. Et de quelle manière, on disait, comme on le lit traditionnellement, de façon remarquablement poétique, mais quand on y regarde de près, celle-ci enfin est haut de mes os. Bon, aucun sens de la différence. Aucun sens de... Il est haut de mes os, moi, chair de ma chair. Et puis, alors que nous savons tous par la suite qu'elle s'appelle Raya, Ève, ce qui signifie en hébreu la vie, lui l'appelle Isha, parce qu'elle a été tirée de Ish. Le péché des péchés, je parle maintenant pour nous aujourd'hui, c'est justement de parler à la place des autres, c'est de ne pas donner la parole, c'est de savoir à la place des autres, c'est de tout garder autour de soi. Le serpent, enfin, il faut dire que, et dans, en ce sens, j'ai une petite différence, mais j'aimerais bien qu'elle soit là, Bénédicte. C'est pas enfantin du tout. Bon, elle en est évidemment, mais c'est même génial, super génial. Comment peut-on dire, avec si peu de mots et de façon si facile à mémoriser, si facile à transmettre? Mais qu'on transmet souvent de travers, ces réalités si fondamentales de l'existence humaine, de ce qu'est la vie humaine. Le serpent ne s'y trompe pas. Il n'est pas tombé de la dernière pluie. Ah bon ? Son mari ne veut pas la laisser parler. Son mari ne veut pas la laisser parler. Moi, serpent, je vais lui parler. Alors, Ève, ma pauvre, tu n'as pas pu dire quoi que ce soit. Mais moi, je vais te donner l'occasion de parler. Dieu n'a-t-il pas dit que, etc. Et la pauvre tombe effectivement dans le piège. Mais elle tombe dans le piège Parce que si Adam avait vraiment été à la hauteur, il lui aurait dit, comme je... Merveille, te voilà, comment t'appelles-tu ? Elle aurait parlé et elle aurait pu tout. Elle aurait dit, je m'appelle Raya. Elle n'aurait pas dit, ah, Dieu nous a dit, il ne faut pas manger du... Bon. Voilà. Je termine par ces trois choses. Voilà, cette fois-ci, j'ai fait mon temps. C'est que croire, par trois ou quatre choses, croire est vraiment quelque chose d'universel. Et il faut vraiment que, je dirais que nous soyons apaisés par cela. Lorsque nous vivons notre foi, notre manière, nous ne sommes pas des gens à part. Nous ne sommes pas des sous-hommes ou des sous-femmes. Tout le monde croit. Simplement, nous, ce qui nous fait vivre, c'est l'histoire d'Adam et Ève et pas le roi des anneaux ou Harry Potter, encore moins les potins qui polluent les réseaux sociaux, les fake news et les cochonneries qui pourrissent la vie en société. Donc, tout le monde croit. Tout le monde croit. Encore faut-il bien croire. Tout le monde croit, et le bien croire, c'est prendre des risques. Alors, je voudrais quand même dire ça aussi. Une enquête récente montre que sur 10 000 jeunes dans 10 pays européens, 45% sont en éco-anxiété. 75% sont effrayés par le futur. 56% jugent que l'humanité est condamnée. Non ! C'est faux ! Ne vous dérobez pas. Engagez-vous. Luttez. Et vous pouvez le faire. Pourquoi ? Parce que Dieu croit en vous. Dieu, lui, a la foi. Voilà. Je pensais encore, et je vais juste encore dire deux choses, et vraiment c'est fini. Je pensais qu'il était... Je me suis engagé dans cette enquête. Je ne savais pas du tout sur le croire. Parce que, justement, je voulais essayer de trouver, tant au niveau interreligieux qu'au niveau de nos contemporains qui disent « on ne croit pas », je voulais essayer de trouver un point de rencontre où l'on puisse se parler. Que croyez-vous ? Non, arrêtez avec votre éco-anxiété. C'est vrai que c'est vrai que c'est grave. C'est vrai que... Mais enfin, vous croyez qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale ou de toutes les guerres qu'il y a eu, c'était tellement rigolo, tellement facile ? Et pourtant, nos parents, vos grands-parents, je parle à mes enfants ou mes petits-enfants, eh bien, ils nous ont mis au monde, on s'est démerdés, avec l'aide de Dieu, plus ou moins. Est-ce que c'est tellement, tellement, tellement pire ? Eh bien, ben, c'est sûr que si vous ne faites plus d'enfants, si vous ne croyez plus dans l'avenir, ben, c'est sûr que l'avenir ne croira pas tout seul en lui. Bon. Donc, appel à l'unité. Les croyances sont l'oxygène de la société. La foi est l'oxygène de l'individu, c'est la spiritualité. Mais il faut bien qu'à un moment donné, les spiritualités, elles s'enchaînent les unes les autres. Et ça, c'est les religions et c'est le dialogue interreligieux. c'est la rencontre entre religions. Et je voudrais terminer pour remercier les amis de la vie et la vie de m'avoir permis de partager ces quelques réflexions avec vous par une citation qui doit être d'un des derniers numéros de la vie, peut-être le dernier. C'est un philosophe ukrainien qui est interviewé. C'est un philosophe ukrainien qui est interviewé et qui dit ceci. Je cite. Au front, donc ils sont mobilisés, sentir que toute notre vie dépend du Créateur et de la parole qui crée la vie. Au front, cela est aussi évident que de respirer. C'est une chose naturelle que tu sois baptisé ou non, juif, musulman ou autre. Tu touches physiquement à une expérience existentielle. Si le soleil se lève, c'est forcément pour quelqu'un et quelque chose. Je vous remercie.